C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Море и океане, на острове на Кидане растет дерево золотые маковки. Там живет кот Баюн. Когда на дерево лезет, песню поет. Когда вниз идет, сказку рассказывает. Вот было бы интересно и хорошо посмотреть.
Salut, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, direction la Normandie, et plus particulièrement le Houlm. Pourquoi ça? Ben parce que si, il s'y déroule pour la première fois, à l'initiative du conteur Louis-Marie Zacharon-Barthes, un festival de contes, récits, expositions, films et conférences. Et à propos de conférences, c'est la conteuse Muriel Bloch qui est venue aujourd'hui pour parler de Louda Schnitzer, connue pour ses contes et les ouvrages sur le cinéma russe qu'elle signe avec son mari Jean Schnitzer. Muriel avait 27 ans quand elle a rencontré Louda, qui en avait alors 68, et ça a été une sorte de coup de foudre. Nous avons la chance d'entendre cette conférence que Muriel n'a pas l'occasion de donner très souvent, et pour cause. Cette histoire est une véritable enquête policière.
Avant sa mort, elle était déjà âgée. Je l'ai rencontrée alors que je travaillais au centre Pompidou, au centre Georges Pompidou, où en 81, une exposition animée par Bruno de la Salle et moi-même, intitulée Alice, Ulysse, Ouïe, c'était la première manifestation de ce qu'on a appelé le renouveau du conte en France. Et comment j'ai pu participer à cette exposition, c'est parce que je travaillais déjà au centre Pompidou et que le hasard, je passe les détails, m'avait fait raconter à la FNAC, à l'occasion d'un débat supposé porté sur la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, j'étais supposée parler de Bruno Bettelheim. Or, l'invitation ne portait pas du tout sur Bruno Bettelheim, mais sur les manuscrits refusés par les éditeurs en matière de littérature de jeunesse, ce qui avait été boycotté par la FNAC, et l'ami qui avait soumis ce projet, par amitié avec quelqu'un de la FNAC, tout à coup a vu arriver un public mais qui n'arrêtait pas d'arriver parce que on attendait des révélations sur Bruno Bettelheim. Il y avait eu un débat la semaine précédente, puisque le livre « La psychanalyse des contes de fées » venait de sortir. Et là, devant cet afflux de pédagogues, d'éducateurs de tout poil, déjà intéressés par les contes, ils voulaient les contes et pas l'édition et la censure du tout. À ce moment-là, l'ami s'est tourné vers moi et m'a dit « Si tu veux pas qu'on soit lynché, débrouille-toi, raconte quelque chose. » Et j'ai raconté d'une voix blanche, en tremblant de la racine des cheveux jusqu'au bout des orteils, j'ai raconté la princesse Grenouille très fidèlement à cette édition de la Farandole, ne connaissant absolument pas qui l'avait écrit, simplement fascinée par les illustrations d'un certain Bilibine et parce que j'avais fait du russe au lycée et que les premiers contes que je connaissais étaient des contes russes. C'est tout. À l'issue de ça, il y avait quelqu'un du Centre Pompidou à la FNAC qui m'a écouté, qui m'a présenté Bruno de la Salle, qui était lui le boss, enfin le vrai responsable de l'animation d'une exposition de livres pour enfants en 81. Et j'ai été la collaboratrice, si vous voulez, de Bruno. Mais l'idée, c'était de faire venir à Paris, au Centre Pompidou en 81, des gens qui s'intéressaient au conte. Lui, les connaissait, moi, quasiment pas. Mais le hasard a fait, et le hasard a toujours bien fait les choses pour moi en matière de conte, que j'avais une amie de la fac qui faisait des études de cinéma à Moscou, qui était de retour à Paris, et qui, à l'occasion d'un déjeuner toutes les deux, me dit « Maintenant que tu te lances dans le conte, 81, tu sais, il faut que je te présente Luda Schnitzer et son mari, qui sont des critiques de cinéma soviétiques, qui m'ont beaucoup aidée dans mes études à Moscou, que je revois régulièrement à Paris, et surtout elle vient d'écrire un livre théorique qui s'appelle « Ce que disent les contes », et il faut que vous vous rencontriez. » Donc, ma copine, c'est ma copine, aussitôt j'ai appelé cette Luda Schnitzer et je l'ai invitée, Bruno m'a laissé faire, au Centre Pompidou, et là j'ai eu un coup de foudre pour cette femme. Et là je me suis dit que si les contes allaient devenir ma vie, il fallait que je reste en contact avec cette Luda qui en fait m'a adoptée en quelque sorte et a accepté que je vienne régulièrement la trouver chez elle parce qu'elle était déjà âgée, elle ne se déplaçait guère, et pour que au fur et à mesure de mes découvertes je vienne partager, échanger autour des contes. C'est là que je me suis aperçue que cette femme extraordinaire avait déjà publié des livres que je ne connaissais pas, qu'elle avait été primée par la ville de Paris en 81 pour l'ensemble de son œuvre, et surtout ce recueil, Ce que disent les contes, était un anti-ouvrage par rapport à Bettelheim. Et j'ai donc été... je l'ai choisie, et elle m'a adoptée. Tant et si bien que... Quand nous nous sommes rencontrés, bien qu'ayant eu cette distinction de la ville de Paris, bien qu'ayant déjà publié beaucoup d'ouvrages, notamment aux éditions de la Farandole, je reviendrai là-dessus, il se trouve que beaucoup des livres étaient épuisés déjà. Et quand j'ai eu l'occasion de créer, dans le milieu des années 80, cette collection de contes que j'avais intitulée « Faits et gestes », j'ai fait en sorte de publier deux recueil de contes de Luda et qui étaient des contes inédits par rapport à ce qu'elle avait déjà publié auparavant, et pour elle ça a été un moment de renaissance, comme la renaissance du conte en quelque sorte, parce que elle a publié aussi parallèlement chez Nathan, il y a eu une demande de contes de Luda à ce moment-là, et en quelque sorte, je suis devenue son porte-parole, puisque dans l'édition, j'avais fait en sorte de publier ses contes. Mais je l'ai côtoyée pendant pratiquement 20 ans, beaucoup moins pendant les 10 dernières années que pendant les 10 premières, où je me formais auprès d'elle. La vie a fait que j'ai voyagé, que voilà, et que je la voyais moins. Mais n'empêche que, pour moi, c'était ma mère des contes. Mais sa personnalité était telle que je ne l'ai jamais questionnée autre que sur les contes. Elle savait beaucoup de choses de ma vie, connaissait mes enfants, et surtout, à travers moi, elle a découvert ce renouveau du conte, tant et si bien que, je vais vous raconter comment, découvert ses archives bien après sa mort, je me suis aperçue qu'elle avait écrit, en dépouillant ses archives, déjà un article dans les années 80 qui témoignait de son intérêt pour le renouveau du conte. Et l'article s'intitulait « Si Peau d'âne m'était contée ». Et voilà ce qu'elle écrivait dès le milieu des années 80. Et je crois que c'était à travers moi, parce qu'elle ne sortait plus vraiment, qu'elle a appris que le conte était en train de connaître une renaissance. Et donc elle écrit ceci. « Voici des conteurs, ceux dont le métier est de dire les contes, de parler le langage du merveilleux. Impensable hier, un tel répertoire est devenu indispensable. L'art de conter, l'antique art populaire bien oublié en Occident, revit avec une singulière vigueur. Les vocations naissent, il y a des cours, des stages de formation. Le conte parlé, le conte vivant reprend sa place dans la littérature et dans la vie. » C'est le 19e siècle qui l'avait mis à l'écart. Curieusement, car ce fut précisément le siècle des conteurs ramasseurs de folklore. Longfellow, Lanrot, les frères Grimm, Afanassiev ont rassemblé un trésor inestimable de contes populaires fâcheusement méconnus par la majorité de leurs contemporains. Le 19e siècle dédaignait le conte, le tenait pour absurde et le laissait aux seuls enfants, affadis, bétifiants, platement moralisateur, ce qui était encore plus sot qu'injuste. Le conte populaire n'est ni absurde ni gratuit. Le plus naïf en apparence est chargé de signification. Porteur de la culture matérielle et spirituelle d'un peuple, le conte en reflète les réalités et l'éthique. L'extrême variabilité des notions morales et du mode de vie fait que la réalité d'autrui nous paraît souvent incroyable et prend à nos yeux des allures de légende. Ainsi, autrefois, les grands-mères soignaient les rhumes des petits en les faisant transpirer dans la chaleur du four, à peine éteint, bien sûr. Le four à pain familial a disparu, et avec lui a disparu la vieille coutume, mais il est resté un vague souvenir devenu l'image de la sorcière qui fait rôtir les enfants. Ce n'est qu'un exemple entre mille. Et il ne faut pas croire que l'on dépoétise le conte en le liant au réel. Bien au contraire, sa magie n'en prend que plus de force et de mystère. La renaissance du conte, surtout du conte oral, est due en partie aux incertitudes de notre temps. Dans l'imprévisible de notre demain, le conte apporte sa confiance dans la vie, sa bonne humeur, son courage et sa générosité, toutes choses dont nous avons grand besoin et qui sont convaincantes, dites de vive voix. Il faut au conte une voix humaine, la chaleur de la présence humaine pour se réaliser pleinement. Une vieille légende raconte, le conte erre à travers le monde à la recherche de la bouche qui dira les mots qu'il faut pour lui donner vie. Plus nombreuses seront ces bouches-là, plus il y aura des contes vivants. Et le conte est le meilleur antidote aux angoisses de demain. Bonne route à tous les conteurs.
Manera que pescador está pensando.
C'est pas pour dire. Nous venons d'entendre Joao Mota et on retrouve Muriel Bloch qui parle de Luda Schnitzer.
Elle dit très simplement, le conte est avant tout une œuvre orale et l'œuvre orale n'est jamais gratuite. Elle entend agir, c'est la loi du genre. La berceuse fait dormir, la ronde fait danser et le conte a des buts précis. D'abord, il explique les mystères de l'univers, ça nous le savons, je le développe. Le conte transmet le savoir pratique et elle donne des exemples, je vous les passe. Surtout, elle dit, et je trouve qu'aujourd'hui c'est important, avec ce renouveau du conte où des tas de gens racontent sans plus savoir d'où viennent les contes, elle dit, le conte populaire est la meilleure façon de nous renseigner sur le mode de vie des gens, de nous faire connaître leurs mœurs et coutumes, leurs problèmes éthiques et leurs droits coutumiers. Dans le conte le plus fantastique, c'est le réel qui plante le décor. Sans doute le conte ne dit pas toute la vérité, rien que la vérité. Mais la vérité, il l'a dit et nous n'en sommes pas toujours conscients. Simplement parce que cette vérité nous est étrangère, éloignée dans le temps ou dans l'espace. Et elle conclut comme ça, comme un lieu de fouille. Le conte est à plusieurs strates, cela va du plus archaïque à l'actuel. Même quand il raconte le roman du renard ou le petit pousset, le conteur y introduit souvent à son insu les éléments de son aujourd'hui. Tant que le conte sera fait et dit par les hommes et non par les ordinateurs, il portera l'empreinte de la vie immédiate, celle du moment où il est conté. C'est le secret de son éternelle jeunesse. Et c'est pourquoi les meilleurs contes sont ceux qui viennent tout seuls, qui ne sont pas inventés, mais dictés par la vie. Le merveilleux, né du réel, a assez de force pour durer. Andersen le savait bien, qui mettait toute la poésie du monde dans une pomme de terre. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point cette femme qui écrivait des contes n'a cessé de réfléchir également et d'être une curieuse, mais dans toutes les disciplines. Pourquoi je l'ai adoptée ? J'ai l'impression que, au moment du renouveau du conte, on disposait essentiellement des ouvrages d'Henri Gougaud, qui était le maître à penser des conteurs, comme il avait été un homme de radio. Il faut savoir que les premières anthologies d'Henri Gougaud étaient la transcription d'émissions de radio qu'il faisait sur France Inter. D'où, dans ses recueils, par exemple, le mythe de Gilgamesh raconté en 4 pages, parce que ça durait 10 minutes à la radio. Donc à cette époque-là, et ce n'était pas le souci d'Henri Gougaud, c'était qu'on ait un répertoire de ces histoires radiophoniques. Hein. C'était le grand parler sur France Inter. Et puis, quand Luda publie ses contes, elle est née à Berlin, de parents russes, d'une famille très certainement aisée, car elle avait une nounou qui parlait français. Elle naît en 1913, mais elle arrive à Paris en 1924. Et elle c'est une écolière de l'école française. Et elle n'obtiendra la nationalité française, ça je l'ai découvert très récemment, que dans les années 50. Mais elle possédait donc la langue russe, qui était sa langue maternelle. Elle possédait l'allemand, puisqu'elle avait quand même vécu quelques années à Berlin. Elle était de famille juive, laïque. Et arrivée en France, elle savait déjà le français parce qu'elle avait, comme la grande bourgeoisie russe, elle avait une nounou qui lui parlait en français. C'était le grand chic dans la bourgeoisie russe de son temps. Donc elle a toujours eu cette passion des langues et c'est important parce qu'elle a toujours été attachée à l'histoire de l'Union soviétique et donc les livres de contes qui sont les siens et qui sont fort nombreux, je reviendrai sur le listing de tout ce qu'elle a publié, elle a commencé à publier dans les années 50 et en grande partie dans la presse communiste, c'est ce fameux journal Pipolin ou le journal Vaillant, où elle proposait des contes, et des contes qui intéressaient le Parti communiste, c'est-à-dire des contes qui venaient en grande partie des différentes républiques soviétiques dont on avait très peu d'exemples en français. Et par la suite, en tout cas moi ce que j'ai tenu à publier quand je me suis occupée de cette collection, c'était des régions dont il a fallu que je regarde sur le globe, je ne savais même pas qui étaient les nénettes samoyades, les tchouchks, quand elle m'en a parlé, j'ignorais que c'était la Sibérie. Enfin, j'avais une ignorance, mais qui n'était pas que mon ignorance, mais qui était une ignorance de l'époque, de toutes ces différentes républiques soviétiques. Et quand elle a publié notamment chez Nathan, avec une éditrice historique qui s'appelait Isabelle Jean, la demande était vraiment de faire connaître ces républiques de l'ex-URSS, que Louda connaissait, elle avait voyagé là-bas. Et quand je l'ai connue, elle ne me l'a jamais dit, mais elle était interprète à l'ambassade d'Union soviétique à Paris, ce qui nous laisse à penser qu'elle a très certainement travaillé pour le KGB. Et quand sont publiés en 1976 « Six contes russes » aux éditions de la Farandole, avec ses illustrations d'un grand nom qui est Billy Bean, c'est d'après les éditions Raduga, vous voyez ce papier jauni, qui était l'interlocuteur des éditions de la Farandole, édition du Parti communiste. Or, j'ai appris récemment que c'est en qualité de traductrice qu'on lui a demandé de traduire ses albums qui avaient paru en URSS. Et elle les a traduits de façon très personnelle par rapport aux éditions qu'on connaîtra par ailleurs des contes russes d'Afanassiev. Si vous comparez la traduction de Louda aux traductions qui existent d'Afanassiev chez Maisonneuve et Larose, par Lise Gruel-Appert ou par d'autres, vous verrez la différence, parce que Louda est au plus près de la langue russe dans sa construction, dans sa poésie, et parce qu'elle a comme métier, entre autres, d'être traductrice, et que toute sa vie, et je l'ai découvert aussi fort tard, elle a traduit un poète extraordinaire pour tous ceux qui s'intéressent à la poésie futuriste russe, qui s'appelait Khlebnikov. Et ce Khlebnikov, c'est un révolutionnaire de la langue, et c'est un homme absolument incroyable et très difficile à traduire. Donc, elle était extrêmement soucieuse de la qualité de la langue écrite, au plus près d'une langue orale. Dans les années 80, un article apparu d'elle dans la revue des livres pour enfants qui portait le titre « Un conte, ça s'écrit comment ?» Et elle disait « Surtout pas en dimanche ». Et elle disait « Dans un conte, on ne peut pas faire parler de la même façon un paysan et un fils de tsar. Il faut se débrouiller pour les faire parler différemment. » Ce qu'on ne trouvait guère dans les textes pour enfants. Puisque elle, son souci, c'était de s'adresser aux enfants. Tout en ayant ce travail de traductrice d'un poète extrêmement difficile à traduire, qu'elle traduisait parallèlement dans son petit chez-elle. J'ai trouvé, dans les contes inédits d'elle, c'est joli, les inédits, oui. Dans les contes, un conte chinois qui, à mon avis, pourrait exactement être l'équivalent de sa conception de l'écriture des contes. J'ai découvert ce conte chinois récemment, puisque je suis en train de débioter une cinquantaine de contes inédits d'elle, que j'aimerais bien faire paraître. Alors, ce conte chinois, le voici, je vous le résume. Parce que le sujet même de ce conte, c'est exactement ce qu'elle cherche dans l'écriture. J'ai compris ça il y a quelques jours. En gros, ce conte chinois raconte que... Alors, ça commence souvent comme Louda, c'est-à-dire par un petit proverbe, une parole forte, comme elle savait les écrire. La chance est une anguille. C'est au moment où vous croyez la tenir qu'elle vous glisse entre les mains. Et alors, ce conte chinois parle de bergers qui se rendent dans la montagne et ils ont un troupeau d'environ 99 vaches. Or, chaque fois qu'ils arrivent à un certain endroit de la montagne, à une certaine heure du jour, le troupeau s'agrandit d'une vache supplémentaire. Et ils ne savent pas d'où sort cette vache, la centième vache. Et puis un jour, ils découvrent qu'il y a une femme, une jeune fille qui est là, et puis au coucher du soleil, qui disparaît, et qui est tout le temps là avec eux dans la montagne, et probablement que cette vache, c'est la sienne. Jusqu'au jour où ils l'interrogent, et elle plaisante en disant que oui, c'est sa vache, et puis que sa vache, elle est magique. Alors, ils voudraient bien savoir, parce qu'elle ressemble en tout point aux autres. Donc, ils ne savent pas. Dans ce troupeau de 100 vaches, laquelle est magique? Et donc, ils voudraient que la jeune fille dise, c'est laquelle? Et elle ne répond pas. C'est à eux de se débrouiller. Et elle dit, un don magique se mérite par le travail. Plus tard, peut-être, je dirais. Et puis, elle disparaît à chaque fois que le soleil se couche. Et donc, ce qu'elle explique, c'est simplement que si sa vache est magique, c'est qu'elle est capable d'escalader les nuages et que chacun de ses poils à la force de 10 bœufs et que ces poils peuvent supporter n'importe quel poids. Voilà en quoi la vache est magique. Bon, le temps passe et c'est toujours le même rituel, 99 et puis 100, et puis quand elle disparaît, il n'y en a plus que 99, jusqu'au jour où un jour il fait très chaud, il y a les 100 vaches toutes pareilles, la jeune fille est là, et elle voudrait manger une pomme, alors ils se précipitent, les bergers, tous, pour lui cueillir une pomme, parce que chacun pense qu'elle va dire « ma vache, c'est celle-là ». Et à ce moment-là, passe un vieil homme, et pendant que les bergers sont occupés à lui cueillir une pomme, les vaches font n'importe quoi. Et donc, elles sont en train de s'égayer partout, quand passe un vieil homme, un coulis, un porteur, vous savez, qui a sur ses épaules cette planche qu'on appelle une palanche, sur laquelle sont suspendus des poids de chaque côté. Et ce vieil homme aperçoit les vaches qui font n'importe quoi. Alors, il pose les seaux qu'il a de chaque côté, probablement il transporte de l'eau, peut-être du bois. Et en tous les cas, avec cette palanche, il flanque des coups aux vaches pour les faire rentrer dans le rang. Et une fois qu'il a fait ça, il continue sa route, mais au moment de reprendre ses charges, c'est étonnant parce que ses charges lui paraissent très légères. Alors il en remet encore, il va ramasser encore du bois, et plus il en met, plus c'est léger. Et il comprend que la force ne vient pas de lui, mais vient de la palanche. Et vous savez que c'est la palanche qui a frappé les vaches. Et donc vous savez que probablement la palanche a frappé la vache magique avec ses poils magiques, d'accord? Et c'est grâce à ça que le vieil homme, sans doute, ne sent plus sa charge. Et du coup, il court sur le chemin, etc. Enfin, sa vie change parce qu'il transporte, etc. Jusqu'au jour où, sur la route, alors qu'il est hyper chargé, qu'il est très vieux, il rencontre un autre marchand qui lui transporte de la porcelaine. Et là, le marchand de porcelaine, quand il voit ce vieux avec toute cette charge sur le dos, il lui dit, mais toi, c'est quoi, t'as mangé quoi aujourd'hui, c'est fou tout. Ah, dit le vieux coulis, c'est pas moi, c'est ma palanche, elle est magique. Alors l'autre, tu dis, ouais, c'est ça, ouais. Bah tiens, essaye, tu vas voir. Et quand le marchand de porcelaine pose la palanche sur ses épaules avec son chargement de porcelaine, il a l'impression de transporter des nuages. C'est léger, c'est... Alors, il veut absolument l'acheter. Alors, le vieux dit, non, tu vois, c'est une palanche magique, ça fait longtemps que je l'ai, regarde, elle est toute usée, non, non, non. Puis, le marchand de porcelaine fait monter les enchères. Finalement, il propose énormément d'argent. Et le vieux se dit, après tout, moi, j'ai assez bossé dans ma vie, avec cet argent, je peux ne plus... Qu'est-ce que j'ai besoin de ma palanche? Je prends l'argent, et puis, hop, terminé, je me repose jusqu'à ma mort. Et donc... Il vend sa palanche au marchand de porcelaine qui, tout heureux, repart avec ça, enfin c'est léger. Et surtout, sur le chemin du retour, le marchand de porcelaine se dit « Mais j'ai plus besoin de personnel, parce que moi je peux transporter, j'ai plus besoin de personne. » Donc, il prépare son plan de licenciement dans sa tête. Sauf qu'il se dit « Quand même, cette palanche-là, elle est toute moche, comme ça. » Et au moment où il fait ses plans de licenciement, c'est pas comme ça dans le texte, mais enfin c'est l'idée, il pousse un cri parce qu'une écharde s'est plantée dans son pouce, parce que le bois de la phalange est vraiment rugueux. Alors, il se suce le doigt blessé et il se dit, un objet magique aussi précieux doit avoir une apparence digne de ses pouvoirs. Et du coup, il va chez un ébéniste et lui demande de rendre aussi belle que possible la phalange. Et donc, l'ébéniste s'acquitte consciencieusement de sa tâche. Il rabote, il ponce, il enlève les fentes, les aspérités, et même, il la polie comme un miroir, et même, il lui met de la laque rouge, et comme ça, la phalange est superbe à voir. Seulement, elle a perdu son pouvoir magique. Et lorsque le marchand récupère cette phalange neuve, comme neuve, eh ben, tout se casse. Et comme irrité, il veut arracher ce poids qu'il n'arrive même plus à soulever. Et du coup, la phalange se brise en morceaux. Et comme les porcelaines s'étaient brisées avant elle. Ainsi s'arrête le conte. C'est l'écriture même de Luda. Cette écriture rugueuse-là, elle ne supportait pas, voyez, les contes qui étaient réécrits, trop littéraires. Moi, je disais toujours que son style est dru, en respectant les manières de parler des peuples dont elle a traduit et publié les récits. Et pour moi, cette histoire de la phalange, c'est complètement elle. C'est-à-dire, à partir du moment où tu en mets trop, le conte n'existe plus. Le pouvoir du conte n'existe plus. C'est dire à quel point l'écriture d'un conte était importante pour elle, pour faire exister le conte. Et c'est en ça que moi j'étais à cette école-là, si vous voulez, du questionnement de l'écriture des contes. Mystérieuse, puisque quand j'ai fait cette conférence, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, par exemple. Enfin, par exemple, c'est là que le feuilleton va rebondir. Puisqu'elle m'avait toujours affirmé qu'elle n'avait pas d'enfant. D'ailleurs, jusqu'à la publication de ces contes-là, les droits étaient réservés. Si vous voulez, moi, j'avais le statut à son égard, une sorte de légatrice, puisqu'elle m'avait confié des contes à publier, mais les droits étaient réservés. Donc les éditions Gallimard, très scrupuleuses, me disaient « Mais vous êtes sûre qu'il n'y a pas de la famille quelque part ?» Je disais « Non, son mari avait peut-être une nièce quelque part en Sibérie dont elle m'avait parlé, mais le mari, il était mort en 2001. » Donc, chez Gallimard, assez soupçonneux, ils avaient fait des recherches, et moi j'avais affirmé qu'une fois Luda morte, il n'y avait plus de famille. Donc voilà, j'avais les comptes, mais je ne me considérais pas comme de la famille, donc c'était des livres qui pouvaient ne pas coûter trop cher en termes de droits. Le dernier recueil, à ma connaissance, de contes de Luda, publié, je crois que c'était les contes de gourmandise qu'on a fait ensemble, les 365 contes de gourmandise chez Atti, repris par Gallimard, avec d'autres images, mais qu'après, je ne crois pas qu'elle en ait publié d'autres. Et donc, elle vivait d'ailleurs très chichement quand je l'ai connue. Je vous décris un petit peu l'appartement parce que je trouve que ça dit quelque chose d'elle. Elle habitait dans le 16e arrondissement, à côté de la maison de la radio. Il faut savoir que à Paris, les arrondissements 15e, 16e sont des arrondissements où il y a eu beaucoup de populations de Russes émigrés. Et donc, elle vivait dans un quartier qui était encore russe pour elle. Elle habitait rue Agar. Je ne sais pas si vous voyez qui était Agar. C'était une grande comédienne du théâtre français qui était la grande concurrente de Sarah Bernhardt. Et cette rue Agar, elle est célèbre parce qu'elle comporte des immeubles encore de cet architecte du métro qui s'appelle Guimard. Et donc, elle vivait dans un modeste appartement, un rez-de-chaussée, qui était en réalité une loge de concierge, mais d'un immeuble classé comme Guimard, donc du style. Elle vivait dans une pièce unique. Une fois, j'ai voulu aller aux toilettes parce qu'on picolait pas mal toutes les deux. Puis un jour, et donc j'ai vu que la salle de bain, la cuisine et les toilettes, c'était la même pièce. Et que sinon, dans la pièce unique, il y avait son lit, son bureau et puis ses livres autour. Et son bureau était en direction de la fenêtre. Donc quand je venais la voir, à l'époque j'avais un Solex, je savais qu'elle me guettait à la fenêtre et qu'elle était en train de travailler. Et que la vodka était prête et en général un gâteau parce qu'elle savait que j'aimais ça. Et moi, je lui apportais en général du gingembre parce que c'était sa gourmandise préférée. Et elle vivait donc très modestement dans ce rez-de-chaussée de la rue Agar. Et comme vous le savez, le renouveau du conte, initié par Bruno, nous a permis de faire des émissions de radio qui s'appelaient « La criée au conte ». Et moi, j'allais assez souvent à la maison de la radio, puis ensuite moi-même, j'ai fait des émissions. Et donc, très souvent, j'allais la voir en allant à la maison de la radio, et c'est là qu'elle me demandait des nouvelles des conteurs. Et quand elle décède en 2002, en réalité, elle se suicide. Ça faisait un moment qu'elle se plaignait de ne plus... Elle n'avait jamais porté de lunettes ni de canne. Elle avait une grosse loupe qui lui permettait de lire. Et elle s'est étouffée. Et terminée. Elle avait fini une traduction de Khlebnikov, le fameux poète. Je n'étais pas à Paris. Je reviens pour son enterrement. Et nous étions très, très peu nombreux. On était 5. Et elle souhaitait être incinérée. Parmi les amis de Luda, il y avait une femme allemande qui s'appelait Ortrud Rock. Alors, c'était assez rigolo parce que au-dessus du lit de Luda, au 4 rue Agar, il y avait 4 numéros de téléphone. Il y avait le téléphone de son propriétaire, qui était également le concierge de cet immeuble Guimard. Il a une importance pour la suite de l'histoire. En dessous, il y avait une amie iranienne qui s'appelait Nadia Sednaoui. Ensuite, il y avait Ortrud Rock, cette amie allemande. Puis il y avait Muriel en dessous. Bloch, Rock, Sednaoui et puis le proprio. Et peu de temps avant sa mort, elle m'avait mise en contact avec cette amie allemande qui était très importante pour elle parce que parmi les amitiés de Luda, les amitiés intellectuelles de Luda dès les années 40, il y avait un certain Alain Gerbrandt que vous connaissez comme étant le rédacteur du Dictionnaire des symboles, par exemple, et qui était aussi célèbre pour avoir, à la fin des années 50, fait le voyage sur l'Amazone, relié l'Amazone à une époque où Orénox, enfin, il avait fait un petit film, il était ethnologue de formation. C'était un grand ami de Luda. Et par ailleurs, ce Alain Gerbrandt était également un éditeur très jeune. Et Luda l'avait connu dans les années 40, au moment où il était jeune éditeur. Et c'était resté un très grand ami à elle. Et cette Ortrud Rock avait été la deuxième femme d'Alain Gerbrandt, qui en avait eu beaucoup, et de nombreuses maîtresses, et des fils naturels, etc., etc. Peu importe. Mais j'avais donc rencontré cette Allemande, et à la mort de Luda, Ortrud, qui avait créé à Aubervilliers un jardin pour les enfants, où elle souhaitait que les plantes soient racontées, où elle souhaitait que les enfants plantent eux-mêmes. C'était un des premiers jardins, d'autres se sont construits, et elle était entichée de cuisine, donc elle faisait, comme ça, elle invitait les mamans à faire des cuisines de leur pays, elle donnait des cours de langue, et c'était une femme d'ordre. Et ce jardin, c'était Jude et Toumani qui s'en occupaient, qui étaient à la fois les deux hommes de main de cette femme allemande, autoritaire, ordonnée, qui faisait peur à la municipalité d'Aubervilliers parce qu'elle avait obtenu ce terrain pour y accueillir les enfants et faire des plantations. Donc moi j'y suis allée souvent grâce à Luda, y raconter. Et quand Luda est morte, avec Ortrud, qui aurait connu les dernières volontés de Luda, nous avons recueilli les cendres, nous les avons récupérées du Père Lachaise, et Ortrud aurait fait le voyage jusqu'à Berlin, où Luda était né en 1913, pour y chercher un bouleau à planter dans le jardin d'Aubervilliers afin que ses cendres reposent au pied d'un bouleau tel que Luda l'aurait voulu. Donc aujourd'hui, les cendres de Luda Schlitzer sont à Aubervilliers, dans ce jardin. J'ai moi versé beaucoup de vodka sur l'urne. Je lui ai écrit un poème créé avec les enfants qu'il avait connus dans le jardin en lettres invisibles. On a fait une cérémonie pour elle et maintenant, ce bouleau que Ortrud était allée chercher à Berlin, elle avait fait l'aller-retour pour que ce soit vraiment un bouleau de Berlin. Il est planté et c'est un immense arbre dans le jardin d'Aubervilliers. C'est là où repose Luda et à part vous et à part peu de personnes, personne ne le sait. Bon, quand je fais cette conférence où je prétends qu'elle n'a pas d'enfant, où je raconte de manière beaucoup plus détaillée qu'avec vous l'importance de son œuvre, j'évoque les contes année par année et en quoi ils sont importants. Je ne sais pas, ça figure sur Internet. Et lors de la conférence, je dis Luda Schlitzer pour la femme critique de cinéma, Schlitzer quand elle écrit avec son mari, Jean Schlitzer, Luda Schlitzer quand elle écrit Ce que disent les contes en 82, cet ouvrage théorique, mais pour les enfants, c'est Luda. Mais elle était née Ludmila Makovsky. Et ça figure dans la présentation de cette conférence sur Internet. Je reçois quelques mois plus tard un mail d'un certain Michel Camus me disant « Je vous ai trouvé sur Internet, il se trouve que j'ai quelques photos de Luda Schlitzer jeune, est-ce que ça vous intéresse ?» Alors, mon sang se met à battre, je réponds illico, « Monsieur, je serais très intéressée, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, volontiers, je n'ai aucune photo d'elle, d'autant que lorsque j'ai cherché une photo d'elle, dans le livre, le dernier publié il y a 3 ans, la seule photo que j'avais de Luda, c'est une photo où elle fume, parce qu'on fumait énormément toutes les deux, et elle fumait des sans-filtres genre Boyard ou Gauloise. Et la seule photo, bah, c'est une photo avec une clope au bec, et ça on n'a pas le droit dans l'édition jeunesse. Du coup, la photo qui figure dans le livre, je ne sais pas pourquoi je ne la trouve plus, eh bien, on lui a coupé la cigarette. Voilà, elle est là. Vous voyez, c'est complètement crétin. Elle a 2 doigts devant les lèvres, alors qu'en fait, c'est 2 doigts qui tiennent une cigarette. Mais publication pour la jeunesse. Bon, c'est une boutade, mais quand ce monsieur me dit qu'il a des photos d'elle jeune, je suis très intéressée, bien sûr. Je n'habite pas à Paris, m'écrit-il. Nous nous verrons quand vous voudrez. Et puis, une fois que j'ai eu cette émotion, je suis occupée à d'autres choses, j'oublie. Puis mon téléphone sonne un jour, 2 mois plus tard. Vous m'avez oublié, on devait avoir rendez-vous, c'est moi qui souhaiterais vous montrer des photos de Luda. Ah, je dis oui, non, mais excusez-moi, on se voit quand vous voulez, puisque vous m'avez dit que vous venez à Paris, que vous n'habitez pas à Paris. Et donc, il me dit, je viens souvent près de la gare Montparnasse, retrouvons-nous si vous le voulez au Select. Je dis d'accord. Puis il me dit, vous êtes assise? Et je dis oui, oui, oui. Et là, il me lit son extrait de naissance. Et ce monsieur, Michel Camus, âgé aujourd'hui de 87 ans, se trouve être le fils de Ludmila Makovsky. Cet enfant, elle l'a eu entre 17 et 18 ans, toute jeune étudiante à Paris. Elle ne souhaitait pas s'en occuper. Et elle l'a confié au père de l'enfant toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle s'est assurée les 2 premiers mois qu'il avait une bonne nourrice. Et d'ailleurs, la dernière lettre que le fils, et l'unique lettre qu'il possède de sa mère, c'est une lettre sur laquelle Luda dit au père de l'enfant que la nourrice ne lui paraît pas très bien, qu'il faudrait un peu vérifier comment elle nourrit ce petit. Puis c'est tout, après il se fâche. Et le père de Michel Camus, donc l'amoureux de Luda des 17-18 ans, meurt assez jeune à 50 ans. Mais il est d'une grande famille, famille Camus, famille de la grande bourgeoisie française avec du bien, du personnel. Donc Ouda sait que l'enfant ne manquera de rien. Et elle ne l'a jamais, jamais revu. Et voilà que ce monsieur âgé de 87 ans m'écrit pour me rencontrer, me montre les photos qu'il a trouvées dans les affaires de son père, qui sont des photos de sa mère à l'âge de 18 ans. Je les ai sur mon ordi, je vous les montrerai. C'est une star d'Hollywood. Elle était, mais magnifique, magnifique. Et voilà qu'à 87 ans, il vient de perdre une fille qui lui avait demandé de faire un arbre généalogique. Et il n'arrêtait pas de dire, bah, ça n'a aucun intérêt, moi, ma mère, je ne sais même pas qui c'est, jamais... Bon. Et sa femme lui dit, mais quand même, tu devrais chercher sur Internet, on ne sait pas, blablabla. Et c'est comme ça qu'il voit Muriel Bloch, tatata, parle de Ludmila Makovsky qui me entre en contact avec moi. Et je vais vous montrer sa photo tout à l'heure, qui est dans mon ordinateur. Quand je le vois au Select, à 11h du matin, au comptoir, il est en train de picoler un whisky, comme faisait sa mère, de bonne heure. Et il lui ressemble, mais il n'y a aucune possibilité de quoi. C'est son fils. Le même visage, les mêmes pommettes hautes, le même front large. Donc, en 10 minutes, on tombe dans les bras l'un de l'autre. Et je m'engage à essayer de tout lui dire sur sa mère. Sauf que je ne sais quasiment rien sur sa mère. Puisque j'affirme qu'elle n'avait pas eu d'enfant, enfin, je me sens dans une sorte de... Et donc, tous les deux, depuis 2 ans, nous menons ces recherches pour savoir qui était réellement Ouda Schnitzer, auteur renommé pour ses critiques de cinéma soviétique avec son mari Jean Schnitzer, écrivaine pour enfants, traductrice de Khlebnikov, ça encore, on peut trouver ça sur Internet. Prix de la ville de Paris en 81 pour l'ensemble de ses contes, ça se trouve. Auteur des contes russes parus dans les années 70 à la Farandole, tout va bien. Mais quelle a été la vie de Ouda de 1913 à 2002? Pourquoi est-elle venue à Paris? Comment est-elle née à Berlin? De tout ça, nous sommes en train de... Alors, mon propos ne va pas être de faire une biographie de Ouda parce qu'il y a trop de zones d'ombre dans sa vie, comme parfois dans les vies, et que moi, j'ai la sensation d'être comme le Perceval du Graal, vous savez, qui voit passer le Graal et qui ne pose pas de questions. Donc je n'ai jamais interrogé Ouda sur sa vie personnelle, mais petit à petit, on a retrouvé des morceaux quand même, grâce à la ténacité de son fils, Michel, qui n'a rien à voir avec le milieu de l'édition, qui a une vie de son côté tout à fait joyeuse, quoique, n'ayant jamais connu sa mère, évidemment, les cicatrices sont à vif. Et quand je lui ai fait écouter Ouda, que j'enregistre pour France Culture, à l'occasion de la crier au conte avec Bruno en 82, je suis chez elle un soir, et elle qui ne raconte jamais, je lui dis, Ouda, pour cette émission, est-ce que vous voulez bien raconter le conte du chasseur que vous m'avez confié? Parce que, au bout d'un certain temps, elle m'a adoptée, c'est-à-dire qu'elle me proposait des contes. Et ce conte du chasseur m'avait tellement saisie que je lui ai dit, Ouda, pour la radio, est-ce que vous voulez bien le raconter? Donc c'est ça l'enregistrement. C'est l'unique enregistrement qu'on a de Ouda. Et la conclusion de ce conte, c'est une phrase qui dit « Je suis sa mère ». Un chasseur qui a été changé en femme, puis changé en cavale, puis changé en chienne, et qui, c'est un conte chamanique, comme sont tous les contes de chasseurs. C'est un conte qui vient de Géorgie. Moi, je prétendais que son mari était géorgien, pas du tout. Il était russe, il était né à Lausanne. Enfin, j'inventais un peu sa biographie. Et donc, imaginez la surprise de cet homme à 87 ans quand je viens avec l'enregistrement pour qu'il entende pour la première fois la voix de sa mère qui dit ce conte du chasseur dont la phrase finale est « Je suis sa mère » en désignant un petit chiot, un poulain et un jeune homme.
Pour les amateurs de contes en France, Louda est depuis près de 40 ans une référence exemplaire. Elle a su se faire l'interprète attentive des voix des peuples les plus divers. Muriel Bloch raconte ici l'histoire rocambolesque de sa rencontre avec Louda Makovsky.
On pourrait n'avoir plus rien de Louda. Mais, comme je vous l'ai dit, sur le mur, il y avait le téléphone du propriétaire. Donc nous avons appelé le propriétaire, Michel et moi. Et ce propriétaire était un gamin quand Louda s'est installée rue Agar en 1951. Et c'est un monsieur qui a donc plus de 70 ans aujourd'hui et qui est toujours le gardien de cet immeuble très chic. Et quand Louda est morte, vu que ses parents n'occupaient pas la loge de concierge, c'était Louda qui occupait la loge, puis les parents, ils avaient un appartement de 3 pièces au rez-de-chaussée, il a tout récupéré. Ce qui fait que quand nous lui avons rendu visite à cet homme, d'abord il a vu d'un mauvais œil l'irruption d'un fils biologique, parce que lui se considérait comme le fils spirituel de Louda. Elle lui avait appris à lire, à écrire, elle lui donnait les journaux pour enfants pour lesquels elle publiait des contes, et il avait toute la collection des livres de Louda qu'elle lui offrait dès qu'il y avait une publication. Donc elle a vu arriver le fils dont elle n'avait jamais parlé. Mais il avait tout, en principe, tout gardé, en tout cas des manuscrits et de sa bibliothèque. Il faut dire que la bibliothèque de Louda, c'était une bibliothèque, l'appartement dans lequel elle a vécu pendant 50 ans n'avait jamais été repeint, jamais nettoyé, elle ne supportait pas une femme de ménage dans ses affaires, quelqu'un. Donc c'était quand même beaucoup de poussière, et puis elle n'était pas très soigneuse, donc les livres étaient en sale état quand même. Mais le concierge avait tout gardé, donc il nous a reçus à plusieurs reprises parce qu'il n'a pas voulu donner tout de suite. Et donc on y est allé 4 fois pour récupérer petit à petit les affaires et notamment tous ces manuscrits inédits de Louda. C'est comme ça que j'ai trouvé ces articles, c'est comme ça qu'il y a des carnets, c'est comme ça qu'il y a quelques objets, mais très très peu. Et un peu une mémoire de ce qu'était sa vie dans cet appartement de la rue Agar, où j'ai découvert une femme libre. C'est-à-dire que Louda, dans ses contes, je l'appelle souvent la justicière des contes, parce que elle n'aimait pas que les contes finissent mal. Elle détestait les contes de Grimm, par exemple. Elle les trouvait trop cruels. Elle adorait l'humour grinçant d'Andersen. Parce qu'elle aimait, par exemple, l'humour qu'on trouve dans les contes ukrainiens. Elle était juive, et les contes juifs, elle en a publié, enfin, elle en a écrit, mais jamais publié, que je trouve pas terrible, c'est pas ses meilleurs contes, à mon avis. Hein. Pour moi, quand je dis justicière des contes, c'est qu'elle donne toujours une place importante à une certaine éthique dans les contes. Si je vous donnerai des exemples, si ça vous intéresse, de contes qui sont caractéristiques de son œuvre, qui sont pour moi les plus beaux, et c'est ceux qu'en grande partie j'ai choisi pour cette anthologie, elle a un souci. Elle adore les enfants dans les contes. Imaginez qu'elle-même n'a jamais vu cet enfant grandir. Pour moi, c'est une énigme que dans les années 50, tout à coup, elle écrive pour les enfants qu'elle adorait, qu'elle défendait à travers ses publications. Il faut savoir que rapidement, elle va être en contact avec les albums du père Castor et que la philosophie de l'éducation des albums du père Castor rencontre les préoccupations de Louda. Quand je dis que c'était une justicière, c'est que beaucoup de ses contes parlent des enfants débrouillards, des enfants qui gagnent, des enfants qui s'en sortent. J'en veux pour preuve un conte kirghize qu'elle a publié chez Nathan qui s'appelle « Comment l'enfant sauva la ville ». C'est une ville assiégée et le peuple est sur le point de se rendre par rapport à l'envahisseur qui est un espèce de Gengis Khan. On est du côté de Samarcande, hein, c'est un conte d'Asie centrale, kirghize. Et c'est un enfant qui trouve la ruse pour sauver la ville. Et ça, c'était un conte qu'elle adorait. elle pense aussi, et dans les contes, que la revanche sociale est importante. Ce qui fait que si je devais choisir parmi tous ces contes celui qui la représenterait le mieux, ce serait peut-être, et c'est pour ça que je l'ai laissé dans ma valise, je l'avais apporté au fond de ma valise, dans un recueil qui s'appelle Peine, misère et bonheur, la chance, ça s'appelle Nesterko manque de tout. C'est comment un pauvre va réussir à duper un pop pour s'en sortir et gagner de l'argent aux dépens du pop. Et ça, comment les pauvres rusent le pouvoir et aussi la religion, ça elle aimait ça beaucoup, beaucoup. Et je pense que c'est ce conte-là, elle l'affectionnait particulièrement. Puis il y a un autre conte qui a connu différentes éditions, qui s'appelle Anaïte. Anaïte, c'est un conte qui vient de l'Arménie. Et il faut savoir que en Asie centrale et chez les peuples du Caucase en général, les femmes guerrières, les femmes ont un rôle, ce sont des héroïnes. Il y a des reines extraordinaires et Anaïte a vraiment existé en Arménie. Quand elle dit le réel d'abord et puis la fiction après, elle s'appuie sur un personnage ayant existé. Cette histoire d'Anaïte, moi je suis allée en Arménie, on la trouve dans tous les kiosques à journaux. Hein. Même si Anaïte peut se retrouver dans des contes d'Orient ailleurs. Mais c'est l'histoire, tout simplement, dans la version de Bouddha, d'une fille de potier qui accepte d'épouser un prince à la condition qu'il ait un métier. Ce qu'on n'avait jamais demandé à un prince, parce qu'il dit « mon métier c'est d'être prince ». Elle dit « non, un métier quoi !» Un métier. Encore une fois, la notion de métier, de savoir-faire. Et du coup, il va apprendre le métier de tisserand. Grâce à ses compétences de tisserand, bon, elle l'épouse, elle a beau être fille de potier, c'est bon, il a un métier, il est tisserand, les voilà mariés, tout va bien. Bon, il s'ennuie un peu, donc il sort de son palais et il va être capturé par des brigands et il va être mis en captivité, en esclavage, obligé à tisser pour des patrons ignobles. Et elle ne sait pas ce qu'est devenu son mari. Et elle s'en inquiète jusqu'au jour où, lui enfermé dans une sorte de grotte sombre, qui est une sorte de lieu d'esclavage où beaucoup d'artisans doivent travailler pour rien, il fait un tapis tellement beau qu'il dit au patron, enfin qui est un brigand chef, il lui dit d'aller vendre ça, pas au marché, mais au palais, parce que c'est une grande, vraiment c'est de trop grande qualité. Et en réalité, il a tissé un message dans le tapis qui fait que quand elle reçoit de la part du brigand ce tapis pour qu'elle l'achète à bon prix, elle le regarde attentivement et elle découvre le message caché. Et du coup, elle localise son mari, elle sait ce qui lui est arrivé, elle va envoyer et elle va le sauver. Et c'est grâce à ça qu'il aura la vie sauve et le comte, très moral, dit que c'est parce qu'il avait un métier qu'il a été sauvé. Quoi. Mais c'est une femme. Et je pense que toute sa vie, dans tout ce que j'ai découvert de sa vie, Luda s'est comportée comme une femme libre. Déjà, quand à 17-18 ans, elle confie l'enfant au père, en général, c'est les hommes qui laissent les enfants aux femmes. Elle, non. Elle laisse l'enfant au père. Il a les moyens, il va l'élever. Bon. Et toute sa vie, alors je vous donne un exemple, autre qui moi m'a fascinée, c'est qu'en découvrant alors les actes de naissance et tous les papiers liés à l'histoire de la famille, elle a un contrat de mariage établi en 1936 avec ce Jean Schnitzer. Entre parenthèses, elle ne vivra jamais avec lui. Moi je les ai vus ensemble, mais ils n'ont jamais habité ensemble. Quand il est mort, elle l'a fait embaumer. Imaginez à Paris, en 2001, rue Agard, pendant une semaine, elle garde le corps de son mari chez elle, embaumé, comme Lénine, qui était... Lénine était au mur chez elle, hein, la photo de Lénine, ça, je l'ai toujours vue. Et dans son contrat de mariage, elle stipule qu'elle épouse bien ce Georges Lutzer, séparation de biens, mais que surtout, elle souhaite être l'unique responsable d'une imprimerie qui était tenue par son beau-père, qui s'appelait l'imprimerie Rotofo, et qu'elle veut en garder la gérance pleine et entière, elle seule, que ça n'intervienne pas dans le partage des biens en tant que par rapport à son mari. Faire ça sur un contrat de mariage en 1936, c'est quand même assez incroyable. Et donc, cette imprimerie, Rotofo, comment est-ce qu'on l'a découvert avec Michel, le fils de Louda? C'est parce que cette fameuse lettre, qui est la seule qu'il possède de sa mère, adressée à son père, pour dire que l'enfant semble maltraité par la nourrice et qu'elle doit le nourrir davantage, c'est sur un papier en tête Rotofo. Donc on a mené l'enquête pour savoir ce qu'était cette imprimerie Rotofo. On a découvert qu'elle existait à Berlin dans les années 20 et qu'elle existait à Paris dans les années 30, 40, 50 et que, en recoupant les adresses, c'était l'imprimerie de son beau-père. Pardon, c'est moi qui fais ce bruit-là. Excusez-moi. Ah oui, c'est Jouan, pardon, c'est le musicien. Allô? Oui, t'arrives à quelle heure?
C'est pas pour dire, je profite de cette interruption téléphonique pour vous dire que cette émission se termine. Voilà, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission ainsi que toutes ses petites sœurs sur le site dédié c'estpaspourdire.fr en un seul bloc. Voilà. Belle journée à tous. Ciao.
Sur la mer, sur l'océan, dans l'île qui dent, pousse l'arbre Sindor. Là habite le chat et le chat savant. Quand dans l'arbre il monte, il dit des contes. Quand il descend, il chante une chanson. C'est ça qu'il veut avoir.